Alors bonjour ce matin, bienvenue à chacun, aux habitués et aux nouveaux. Est-ce qu'il y a des nouveaux qui n'ont pas l'habitude de venir ici? Oui? Pouvez-vous vous présenter? Ou pas trop? Bravo! Alors merci, soyez les bienvenus, nos chers voisins. Alors ce matin, nous accueillons bien sûr le Seigneur qui sera ici, présent, comme c'est promis dans sa parole, et qui remplira notre cœur. Zena et moi, nous assurons la présidence du culte, et ce matin, on a le directeur de l'agence Azur, notre ancien pasteur, Jean-Jacques Mélan, qui assurera la prédication. Ce matin, deux, trois choses à signaler quand même. Il y a une personne qui a chauffé l'église, qui s'occupe que tout fonctionne, qui s'occupe de la technique, qui fait les réparations, les travaux, les canalisations, et qui fête son anniversaire. Il mentionne Raymond Félix. Et une autre personne, c'est pas fini, une personne, un personnage qui court très très vite, qui est sympathique et qui sait faire des toasts le matin et qui sait exactement comment on cuit les œufs pour qu'ils soient juste bien pour le petit déjeuner. Une personne qui boit du thé et puis qui court vite, qui la plupart du temps me bat à la course à pied. Et là, il me bat aussi pour l'anniversaire puisqu'il prend un petit peu d'avance sur moi. Alors c'est une personne qui prend sa retraite à partir de hier et qui a fêté son anniversaire, donc Roger Sewell. Alors tous nos voeux à Roger. Alors je vous invite à prier pour poursuivre ce culte. Seigneur, merci pour ta présence, merci parce que tu es là, merci parce que tu remplis nos cœurs, merci parce que tu nous visites, merci parce que tu es un Dieu vivant et que nous voulons célébrer, nous voulons te louer ce matin, te rendre gloire. Merci pour cette occasion de le faire en communauté, de le faire tous ensemble, de le faire ici, ce matin. Au nom de Jésus, amen. Alors, en pensant à ce matin, je pensais aussi à un texte que je ne vais pas lire parce qu'il est trop long, mais c'est le texte de Acte 9 où Paul rencontre le Seigneur. Donc, Paul était un grand prêtre qui avait des pouvoirs très importants et il cherchait des lettres pour pouvoir enlever les chrétiens, les enfermer et les amener à Jérusalem pour être jugés. Et quand il allait chercher ses lettres, il était en route sur la route de Damas, quand une lumière est venue sur sa route et l'a fait tomber à terre. Il a entendu une voix qui lui disait « Mais pourquoi me persécutes-tu ? » Alors les autres ont entendu la voix, mais ils n'ont rien vu. Et Paul, du coup, est venu complètement aveugle. Et à Damas, donc il a continué sa route en étant aveugle, et le Seigneur a appelé une autre personne qui s'appelait Ananias, et celui-ci a une vision qui devait prier pour Paul. Il s'est dit, moi, prier pour Paul avec ce qu'il va faire, c'est-à-dire arrêter les gens, je n'ai pas trop envie d'y aller. Mais il y est allé, il obéit à Dieu. Effectivement, Paul a recouvré la vue, et puis il a découvert la vie en Christ. Et quand on voit ce que Paul est devenu, on voit la puissance de Dieu, ce qu'il est capable de faire. Alors je crois que c'est ce texte qu'il faut avoir en mémoire pour savoir que Dieu est présent et peut changer les circonstances et les choses. Voilà, on va passer maintenant à un temps de louange. J'invite l'équipe à venir en les remerciant déjà pour tout le travail.
Slavy, s'il vous plaît. Bonjour. Seigneur Jésus, tu es magnifique, tu es fidèle à tes promesses et c'est conscient de ce que tu es au milieu de nous. Maintenant, c'est conscient de ce que tu es autour de nous, c'est conscient que tu es dans le cœur de chacun, c'est conscient que tu es fidèle à tes promesses que nous venons te rencontrer ce matin. Seigneur Jésus, je veux te dire, je t'aime et... Sans toi, je ne pourrais pas vivre. Je crois que je sauterais par la fenêtre demain. Parce que juste courir vers la mort, c'est affreux. Mais tu as tout changé pour nous. Toi, tu as tout changé. Toi, tu t'es sacrifié toi-même par amour pour nous. Et nous voulons te dire ensemble que nous t'aimons en retour. Nous voulons te dire combien nous sommes transformés par toi, combien tout est changé dans nos vies pour toi. Nous voulons dire combien nous te sommes reconnaissants. Seigneur Jésus, tu es fidèle, béni soit ton nom.
Jesus.
Je voulais juste vous partager un livre que j'ai lu récemment, que ma femme m'a proposé de lire et qui est extrêmement intéressant, qui s'appelle « Captive en Iran ». Alors c'est l'histoire de deux femmes, c'est pas du tout comme Jamais sans ma fille où c'est une Américaine qui va en Iran, c'est vraiment des Iraniennes qui ont vécu quelque chose de très fort. Elles se sont converties 11 ans avant ces événements et elles passaient leur temps, en fait, à faire des petites églises de maison, à témoigner, à vivre leur foi d'une manière très, très intense. Elles témoignaient à leurs voisines, etc. Elles étaient tout le temps en train de parler de Jésus. Et un jour, il y a les Basili, qui sont une espèce de police sur les mœurs, et qui débarquent chez elles, et qui commencent à tout saccager, à prendre les Bibles, à tout casser, évidemment sans mandat, non officiellement. Elles expliquent que ces gens n'ont pas le droit de faire ça, mais en fait, ils s'en fichent, ils cassent tout, et ils les emmènent, et voilà, elles débarquent en prison. Alors, elles ont commencé leur vie en prison à Vozara, qui est une prison où on doit rester juste en attente d'aller dans une vraie prison, mais en fait, ça devait durer 2 jours, ça a duré 2 semaines, et après, elles ont été envoyées dans une prison qui s'appelle Evin, qui est une prison épouvantable, où il y avait évidemment un quartier d'hommes et un quartier de femmes. Elles vivent dans des conditions déplorables, elles n'ont d'ailleurs pas à manger, elles n'ont pas à boire au début, et puis elles n'ont pas d'habits, pas de toilettes, enfin c'est assez horrible. Et puis elles profitent de cette occasion pour témoigner et de rendre vraiment gloire à Dieu. Elles entendent parler de tortures, de gens qui ont été pendus, donc il y a une ambiance qui est très difficile et finalement elles sont même envoyées dans un pavillon qui est le pavillon 209 qui est un pavillon où elles sont soumises à des interrogatoires, à des, parfois des tortures et parfois à la mort. Alors je voulais lire un petit bout qui est sur leur manière de témoigner, de ne pas céder. C'est un petit bout qui se passe à un moment de tribunal où elles sont de nouveau interrogées, parce qu'elles étaient interrogées parfois pendant une journée, puis des fois le lendemain, puis encore un jour, on leur posait toujours les mêmes questions pour les faire craquer. Un vieil homme assis derrière un bureau placé sur une estrade, lieu du pouvoir, nous demanda de nous asseoir. Nous reconnûmes M. Haddad pour l'avoir vu à la télévision. Il avait une longue barbe blanche, une moustache et des yeux pénétrants. Monsieur Haddad nous demanda si nous étions chrétiennes. Oui, nous l'étions. Je crois en Jésus-Christ aussi, nous dit-il, mais je ne suis pas chrétien. Maintenez-vous votre croyance? C'est toujours la question. Lorsque nous redîmes oui, il continua visiblement gêné. Je voulais vous voir aujourd'hui pour vous avertir que si vous continuez vos résistances, vous vous prépariez un avenir douloureux. Deux procureurs ont rédigé des actes menant à votre exécution. Et ils insistent pour leur mise en accusation soit entendue. Ils m'ont forcé à confirmer la sentence et l'envoyer au tribunal pour confirmation. Je ne peux pas vous aider davantage, sinon je subirai des pressions. Il vous suffit d'écrire que vous renoncez à votre foi en Christ et je pourrai vous aider. Autrement, j'enverrai votre dossier à M. Salvati au bureau 15 et je ne pourrai plus rien pour vous. Sans aucune hésitation, nous répondîmes ensemble, nous ne renoncerons jamais à notre foi. « Mais comment êtes-vous sûr d'avoir raison ?» nous demanda M. Haddad. « Nous, musulmans, croyons en Jésus, mais aussi nous croyons Mohammed et nous ne voulons pas renoncer à ses prophètes. Personne ne peut changer de religion comme ça. Et la réponse était la suivante. J'ai fait une rencontre personnelle avec le Christ, dit Marzigeh, et il m'a révélé sa vérité. Dieu ne parle jamais à personne, hurla Monsieur Haddad. Sa voix emplissait la pièce. Croyez-vous que Dieu est tout-puissant ? Oui, bien sûr. Alors il parle à qui il veut. Oui, mais vous êtes indigne de ce don. Dieu ne parle qu'aux prophètes qu'il s'est choisi. Et la réponse a été, le Seigneur seul décide qui mérite ce privilège, pas vous. Et voilà, ça continue. Et puis finalement, bon, elles sont condamnées. Et puis normalement, elles auraient dû être exécutées. Mais le Seigneur veillait. Et puis 250 jours, c'est quand même long, elles ont été mystérieusement ou miraculeusement libérées. Il y a une personne qui ressemblait un peu à un ange, enfin une personne du gouvernement qui a fait tout pour les libérer. Et il y a aussi eu, c'est vrai, un soutien international. Et ces personnes ont pu, disons, témoigner aussi de leur manière de faire et qu'elles n'avaient pas quitté l'islam, qui était la pierre d'achoppement. Et dans la prison, elles ont profité de témoigner aux geôlières, aux prisonnières. Et il y a eu un partage, une manière de partager qui était extrêmement forte. Elles ont profité en fait de ce passage en prison pour amener des gens à la foi. Et il y a eu même des guérisons, il y a eu des personnes qui ont été touchées, et des personnes, ces deux femmes ont reçu des révélations aussi de temps en temps, disant ben, « toi tu vas être libéré dans 15 jours ». Effectivement, les choses se passaient comme prévu. Alors c'est un beau témoignage, je vous encourage à le lire. On voit que ces femmes n'ont pas cédé et pourtant elles n'avaient pas de relation avec l'extérieur de l'Iran. C'est vraiment le Christ et le Saint-Esprit qui les a aidées. Voilà.
Thank you.
Vous asseoir. Je vais vous raconter une petite histoire, une histoire vraie qui m'est arrivée la semaine passée. En fait, je me suis réveillé à 4 heures du matin avec le cœur qui battait assez fort. Je me suis dit, c'est bizarre, ça. C'est pas du tout dans mon habitude. Et puis j'avais un petit peu mal, mais bon, je me suis rendormi. Et autour des 5 heures du matin, je me suis de nouveau réveillé et je commençais à avoir vraiment mal au dos, à l'arrière du dos. J'avais un peu comme une espèce d'épée qui me piquait dans le dos. Je me suis dit, c'est vraiment bizarre. Et puis comme je n'arrivais pas à dormir et puis j'avais de plus en plus mal, je suis descendu au salon et puis j'ai attendu un moment. Et ça m'a rappelé en fait ce qui m'était arrivé il y a quelques années. J'avais eu un calcul rénal et c'est extrêmement douloureux. Et là, ça commençait exactement la même chose. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire à 5 heures du matin, à part réveiller ma femme et lui dire que j'ai mal. Je me suis dit, je vais prier. Et je peux vous dire qu'il s'est passé quelque chose d'incroyable. C'est que, comment, au début de ma prière, la douleur a complètement disparu. Puis alors, je me suis dit, c'est un peu psychologique. Je suis chrétien, je prie, ce problème disparaît. Et au même moment où je pensais ça, j'ai senti la présence de Dieu d'une manière physique, de manière incroyable, et j'ai eu la conviction que c'était Dieu qui était intervenu et qui avait guéri quelque chose qui était peut-être effectivement un calcul rénal. C'était exactement la même douleur qu'il y a quelques années. Alors ça m'a réjoui, et puis j'ai eu, je veux dire, la conviction de vous le partager, vous dire que voilà, des choses se passent, et c'est vraiment Dieu qui est tout-puissant, parce que je ne méritais rien, mais Dieu est intervenu et a effectivement fait quelque chose. Alors voilà. Amen.
Et en toi que je veux être éternellement. Nous adorons Adonai. Nous adorons Shalom. Nous élevons ton grand nom. Nous te louons, Seigneur. D'un même cœur pour le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur. Tu serviteur, ben je veux que ma joie demeure, car c'est en toi que je veux être éternellement.
Seigneur Jésus, oui, c'est en toi que nous voulons être éternellement. Et ce que nous te chantons, ce n'est pas juste une chanson, ce n'est pas juste un chant. Ce qu'on te chante, c'est ce qu'il y a dans notre cœur. Ce qu'on te chante, c'est ce que nous désirons ardemment chacun. Ce qu'on chante, c'est ce que dit notre cœur pour toi. Tu es notre Seigneur, tu es notre guide. À qui d'autre pourrait-on aller, puisque de toute façon, c'est toi qui as les paroles de la vie, parce que de toute façon, c'est toi qui nous sauves, parce que de toute façon, c'est toi qui nous guéris, parce que de toute façon, c'est toi qui nous as créés. Tu es notre Père dans les cieux. Tu nous attends là-haut et puis tu es déjà ici avec nous. Béni soit ton nom. Amen. On peut reprendre place. Merci.
Je vais prier pour Jean-Jacques avant la suite de ce culte. Seigneur, merci. Je te demande d'accompagner Jean-Jacques, notre ami, notre ancien pasteur, que tu l'accompagnes dans ce qu'il va dire, que tu l'inspires dans tous les détails et qu'il puisse aussi vraiment parler en ton nom. Nous te le demandons, Jésus-Christ. Amen.
Amen. Merci, Daniel. Bonjour. Chers amis et chers amis, vous savez, c'est un grand, grand plaisir. Malheureusement, je me mets au singulier pour moi. Je ne veux pas dire pour nous, puisque Liliane n'a pas pu m'accompagner. Elle est vraiment trop mal, elle est vraiment atteinte par la grippe. Et moi, je suis encore entre deux eaux. Mais je suis certain qu'au milieu de vous, je serai du bon côté de ces deux eaux qui me menacent. Donc c'est un énorme plaisir pour moi d'être là au milieu de vous, toutes les salutations de Liliane. C'est un privilège de vivre à nouveau un culte avec vous. Vous savez, moi je suis toujours touché de pouvoir voir la chapelle de l'extérieur. Pour vous c'est une banalité puisque vous le vivez tous les dimanches, voire en semaine lorsque vous êtes là. Pour moi ça reste un événement extraordinaire parce que c'est vrai. Voilà, de mon temps, donc ça va tout de suite, pour ceux qui ne me connaissent pas, ça va tout de suite qualifier un peu mon grand âge. De mon temps, je ne servais pas sur cette chaire, mais sur une chaire qui était là-bas dans la chapelle. Mais enfin, c'est dire le bonheur que j'ai de voir la chapelle, alors que je ne voyais pas ce bâtiment en son temps. Que dire d'autre ? Le bonheur aussi d'observer et de participer à l'évolution de cette communauté que nous aimons beaucoup. Vous le savez, c'est toujours un plaisir pour nous d'être au milieu de vous le matin ou à d'autres circonstances. Les témoignages que Daniel nous a apportés en rapport avec ses sœurs chrétiennes d'Iran m'ont énormément touché, puisqu'il s'avère que nous étions en Iran il y a 18 mois, c'était au mois de septembre 2015. Nous étions avec Claude Parnigoni et Francine. Avant d'avoir été en Iran, nous avons passé quelques jours à Yerevan, la capitale de l'Arménie. Et là, nous avons rencontré Benjamin Sarguez est le secrétaire général des quelques 7 ou 8 églises protestantes officielles qui ont droit à l'existence en Iran. Mais comme c'est un homme bouillant, un homme qui voulait le développement de ses églises, il était très souvent menacé par les Basidjis dont tu parlais. Les Basidjis, c'est cette police parallèle qui n'est contrôlée par personne et qui sont extrêmement nombreux, plus de 30 000 Basidjis simplement à Téhéran, et qui sont capables d'intervenir dans votre foyer, dans votre petit magasin pour fouiller, pour être sûr que vous n'ayez pas une bouteille d'alcool à vendre ou un paquet de cigarettes, ou bien pour aller regarder si votre foulard est bien placé correctement sur vos cheveux, sinon ils vous mèneront en prison, etc., etc., etc. C'est vraiment une police terroriste qui terrorise l'ensemble de la population. Alors ce monsieur était constamment menacé par cette police qui lui téléphonait et qui lui disait, tu sais, si tu ne quittes pas le pays, on va te faire la peau, enfin tu vas mourir, etc. Et comme il connaissait ces menaces depuis des dizaines d'années, il ne s'en préoccupait pas particulièrement. Jusqu'au jour, au mois de fin mai 2015, où l'un de ses amis, qui est député chrétien au Parlement iranien, donc dans le Parlement iranien où il y a, je crois, 400 parlementaires, vous avez 5 chrétiens nommés d'autorité pour la façade par le régime, eh bien l'un de ces députés chrétiens a dit « J'ai vu un mandat d'arrêt signé à ton nom, donc je te recommande cette fois, si c'est sérieux, je te recommande de partir. » Il est rentré chez lui, il a dit à sa femme « Tu fais tes bagages, demain nous partons. » Et ils ont quitté l'Iran pour aller en Arménie. Leurs deux filles, qui avaient 12 et 14 ans à cette époque-là, ça a été, oui, c'était un déracinement. Mais en même temps, elles disaient, je suis tellement content à Yerevan, je n'ai plus besoin de porter de foulard. Alors, il faut prier pour ce frère. Il ne sait pas encore ce qu'il va devenir. Peut-être est-ce qu'il va prendre une tâche de coordinateur de toutes les communautés iraniennes qui peuvent se trouver soit aux États-Unis, soit en Europe. Maintenant, vous avez de plus en plus d'Iraniens qui émigrent et qui se convertissent et constituent des communautés chrétiennes, particulièrement en Allemagne. Il y en a un très grand nombre, donc ce frère pourrait devenir leur berger, mais c'était extrêmement dur pour lui d'avoir dû être ainsi déraciné. D'autant plus qu'il y a des membres de sa famille qui sont restés là-bas. Nous avons visité l'un de ses beaux-frères, qui est toujours pasteur dans l'une de ses communautés au nord de l'Iran. Voilà, donc ça me touche que vous ayez cette pensée pour nos frères et sœurs et que cette pensée puisse nourrir notre prière. Eh bien, nous allons partager ce que j'ai vraiment à cœur de vivre avec vous ce matin. Ésaïe 55, mais à ce titre-là, j'ai rajouté, alors comment est-ce qu'on avance, à droite, à gauche, non, ça descend, ça vient, non, ah non, il faut, ah voilà, mais tout est là, c'est toujours mystérieux, la technique, bien, voilà, alors mon thème, c'est les quatre saisons de la vie, oh non, 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 ça va trop vite cette fois, alors les quatre saisons de la vie avec Dieu. C'est mon thème, les quatre saisons de la vie avec Dieu. Alors, je vais vous lire, nous allons lire ensemble, vous l'aurez sous les yeux, ce texte d'Ésaïe 55, et je, comme petite mise en bouche, je vous suggère vous-même d'identifier, de repérer ce que j'appelle les quatre saisons de la vie avec Dieu. Et vous savez, c'est une fois qu'on les aura parcourus, vous direz, mais oui, c'est bien vrai, c'est bien cela qui charpente ma vie et qui constitue mon existence. Et c'est dit avec beaucoup de finesse dans ce texte qui, par ailleurs, est absolument magnifique. Donc, nous lisons le texte. Il commence par une exclamation. Holà ! Non. Alors, tu peux y aller. Holà ! Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau. Même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter, manger, venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Quelle nouvelle extraordinaire, hein ? Bon, je sais qu'il y a des hommes politiques qui font des promesses de ce genre, je ne sais pas si ça convient tout à fait au magasin ou à l'épicerie du coin, mais enfin, vous connaissez la symbolique de la libéralité et de la générosité de ce que le Seigneur veut nous offrir.
Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui n'est pas du pain? Pourquoi vous fatiguez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc et mangez ce qui est bon, et vous vous délecterez de mes succulents. Tendez l'oreille et venez vers moi. Écoutez et vous vivrez. Je conclurai pour vous une alliance perpétuelle, celle de la fidélité envers David qui est sûre. J'ai fait de lui un témoin pour les peuples, un chef qui commande au peuple. Tu appelleras une nation que tu ne connais pas et une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi à cause du Seigneur ton Dieu, du Saint d'Israël qui te donne de la splendeur. Cherchez le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver, invoquez-le pendant qu'il est proche. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme malfaisant ses pensées, qu'il revienne au Seigneur qui aura compassion de lui, à notre Dieu qui pardonne abondamment. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voies ne sont pas vos voies, déclaration du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent du ciel et n'y reviennent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et fait germer, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui a faim, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire, sans avoir réalisé ce pourquoi je l'ai envoyé. Oui, vous sortirez dans la joie et vous serez conduits dans la paix. Les montagnes et les collines éclateront de joie devant vous et tous les arbres des champs battront des mains. Au lieu des buissons poussera le cyprès, au lieu de l'ortie poussera le myrte. Ce sera pour le Seigneur un nom, un signe perpétuel qui ne sera pas retranché. Vous avez repéré les quatre saisons de la vie avec Dieu. J'allais même dire nos quatre saisons, ce qui caractérise vraiment nos quatre saisons. Alors quand je dis nos quatre saisons, j'allais le dire en conclusion, mais il faut tout de suite le comprendre. Pour moi, ce n'est pas chronologique. Il ne faut pas y voir des étapes de la vie. C'est des phases de notre existence, mais qui peuvent parfaitement bien s'imbriquer les unes les autres et qui n'ont aucune chronologie. Première saison, les versets 1 à 6. Et cette première saison, je l'ai intitulée « La rencontre avec Dieu qui étanche ma soif ». Hola, vous qui avez soif, venez vers l'eau, même celui qui n'a pas d'argent. Alors, c'est magnifique. En fait, notre première expérience, notre première saison de la vie avec Dieu, c'est la saison qui débute par le privilège que nous avons eu d'entendre son interpellation. Si nous sommes là, c'est que d'une manière ou d'une autre, nous avons entendu son interpellation. Nous avons entendu une voix qui s'est adressée à nous et qui nous a dit « Mais venez, j'ai quelque chose à vous offrir ». Mais il n'y a pas que nous qui entendons cette voix. Parce que vous voyez bien que cette voix s'adresse à ceux qui ont soif. Et là, j'aimerais vous poser la question, combien y a-t-il de personnes qui ont soif ici même, ou dans nos villes, ou dans nos pays? Moi, je vous dis que toute l'humanité a soif. Avoir soif n'est pas du tout le propre des chrétiens, des croyants. Avoir soif est un désir profond qui est inscrit dans l'être humain dès sa naissance, dans son origine profonde. Dans son origine, tous les êtres humains... Excusez-moi, je vois qu'il faut que je modère ma voix, sinon je vais m'imposer des souffrances. Donc, tous les êtres humains, et ça c'est important, parce que c'est l'un des points d'accrochage fondamentaux que nous pouvons avoir avec tous nos semblables, qu'ils soient croyants, athées, révoltés ou que sais-je, tous les êtres humains sont tous des assoiffés de justice, des assoiffés de paix, des assoiffés d'amour, de miséricorde, d'harmonie. Lisez le premier des journaux, même le journal peut-être le plus le plus commun, qui est le 20 minutes, évidemment, que nous lisons tous consciencieusement tous les matins, bien que c'est un journal qui, quelque part, est d'une inconsistance incroyable, mais sa vérité profonde est fondamentale. Sa vérité profonde, et je l'ai utilisé dernièrement à l'église de Villa, où on me demandait mais, de parler sur le mal. Mais je dirais, ce journal est un exposé magistral de la notion du péché, dans le sens que ce journal dit tous les malheurs des êtres humains. Et dans ce sens-là, il est remarquable comme miroir et comme reflet qui nous parle et qui peut être un levier qui nous permet de rejoindre nos proches. C'est le levier, enfin, le message de ce journal, c'est en fait les malheurs, en effet, de l'humanité. Il y manque la paix, il y manque la justice. Alors on vous parlera des accidents, on vous parlera des fraudes de celui-ci, de celui-là, enfin peu importe des détails. Mais on sent très bien dans ce journal cette espèce de cri, où sera la justice, où est la paix, où est la miséricorde, où est le vrai sens de la vie. C'est Blaise Pascal, merci, c'est sympa. C'est Blaise Pascal qui disait, il y a au fond de l'homme un vide. Alors, on dira que c'est banal, hein. C'est banal parce que tout le monde, psychologiquement et sociologiquement, doit le reconnaître. Le génie de Pascal, c'est qu'il a rajouté sa phrase en disant « ce vide a la forme de Dieu ». Alors, ce vide qui a la forme de Dieu, chaque être humain cherche à le remplir avec ce qu'il a sous la main. Et qu'avons-nous sous la main? Eh bien, c'est notre propre corps, notre santé, la capacité de produire des performances de toute nature. Ce que nous avons sous la main, c'est notre travail, nos distractions, nos loisirs, nos biens matériels, et j'en passe. Et le malheur de l'être humain, c'est qu'il se contente de tous les objets qui sont sous sa main pour pouvoir essayer, tant bien que faire, à remplir ce vide. Mais plus il y rajoute du loisir, plus il y rajoute de l'argent, plus il y rajoute de la distraction, du sport ou que sais-je, moins ce vide n'arrivera vraiment à se combler selon la loi du désir. Vous connaissez, j'en avais parlé certainement devant vous, que la loi du désir est telle que chaque satisfaction du désir ouvre sur un désir plus grand. Il n'y a que le contentement, il n'y a que la bienveillance et la miséricorde qui satisfassent le besoin des êtres humains. La satisfaction du désir humain ouvre toujours la béance sur un désir plus grand. Donc, cette phrase, elle est centrale. Il y a au fond de l'homme un vide qui a la forme de Dieu. Et alors, au fond de cette quête qui est la nôtre, qui est celle de tous les humains, des millions d'humains sur notre, des milliards d'humains sur notre tête, au fond de cette quête, nous entendons une parole extraordinaire. Hola, vous qui avez soif, venez. Moi, je trouve admirable cette traduction dans la Bible second. C'est qu'il ose exprimer ce qui est quasiment inexprimable. Il faut vraiment pousser un cri, mais c'est quelque chose qui n'est pas de l'ordre cérébral, mais qui doit toucher nos tripes et nos cœurs avant de toucher notre intellect. Vous avez soif, eh bien, venez. Je peux nourrir votre soif. Vous prétendez ne pas avoir d'argent, eh bien, je vais vous rassasier sans argent. Vous avez faim, je vais nourrir votre faim, même sans argent. C'est ce que Jésus dira beaucoup plus tard en s'écriant lors de la grande fête, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » C'est dans l'évangile de Jean, et on le retrouve dans l'Apocalypse. Alors, qu'est-ce que dit Dieu à ces personnes? Eh bien, il dit, venez à moi, écoutez, et vous vivrez. Alors, bien sûr, c'est fondamental, parce que si je comprends que, finalement, les objets qui m'entourent ne sont pas la satisfaction réelle de mes besoins les plus profonds, donc c'est ailleurs que doit venir cette satisfaction, elle vient d'une parole. Et une parole, ce n'est pas simplement une vibration sonore, une parole, c'est un acte et une présence. Donc, voyez, quand nous pratiquons, quand nous lisons, quand nous partageons la parole de Dieu, nous ne partageons pas une sonorité verbale, nous partageons un acte et une présence. En hébreu, c'est les mêmes mots. Dabar, de barim, la parole, c'est l'acte et la présence de Dieu, de même que les paroles. Donc tendez l'oreille, écoutez, vous vivrez. Tendez l'oreille. Alors non, c'est un immense défi. Je vous dis, chaque phrase de ce texte, j'allais dire de cet évangile d'Ésaïe, chaque phrase pourrait me prendre une heure de développement, mais je crois que vous allez quand même sauter, vous désirez quand même vivre le repas qui est devant vous. Donc je dois faire court. Mais il y a un tel brouhaha médiatique à l'heure actuelle. Remarquez, ça a peut-être toujours existé, mais je crois qu'aujourd'hui c'est particulièrement intense, que c'est vrai que dans ce brouhaha médiatique, il faut tendre attentivement l'oreille. Et j'ai envie de dire à tous les chercheurs de Dieu que nous sommes et que vous êtes, il faut avoir cette oreille affinée, parce que dans toutes les longueurs d'onde médiatiques qui atteignent nos oreilles, il y en a tellement qui sont des parasites, et tellement qui vont nous conduire dans des impasses et des voies de garage, alors qu'il nous est dit au contraire d'écouter la parole qui fait vivre. Et faire vivre, eh bien, c'est d'abord nous restituer à notre liberté, c'est pas nous emprisonner dans une prison de je ne sais quel légalisme ou de quel étouffement religieux ou ecclésial qu'on puisse imaginer. Parce que si vous regardez le texte attentivement, vous voyez que le projet de Dieu, c'est de construire avec nous une alliance perpétuelle. Là aussi, il y a un mot qui est lourd, magnifiquement lourd dans ce texte. Je veux conclure avec vous une alliance perpétuelle. Et ça rejoint tout à fait ce que je disais avant. Qui dit alliance dit dialogue, partage, communion. On est quasiment, bien que nous sachions bien que c'est une alliance entre un plus grand et un plus petit, puisque Dieu est le souverain qui fait alliance avec nous autres dans notre fragilité. Mais n'empêche, cette alliance nous restaure dans une situation de quasi-égalité. Et d'ailleurs, cette quasi-égalité, j'ose la signifier. Bon, c'est saint Irénée qui disait que Dieu a voulu que l'homme... Dieu a voulu que... Dieu est devenu homme afin que l'homme devienne Dieu. Dieu est devenu homme par nature, afin que l'homme devienne Dieu par grâce. Bien sûr, il y a une distinction fondamentale entre les deux. Mais c'est Jésus qui dit, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle mes frères. Et quelque part, nous sommes invités à entrer dans une identité de communion et d'essence, de présence et de communion avec Dieu. Alors c'est ça que signifie l'alliance. Nous ne sommes plus dans ce déséquilibre d'un assujettissement, mais nous entrons dans un vis-à-vis de dialogue qui nous construit et qui nous charpente. Je conclurai pour vous une alliance perpétuelle. C'est l'alliance de la fidélité. Alors vous savez, bon, voilà, c'est les 6 premiers versets. C'est absolument magistral. J'appelle ça notre première saison avec Dieu. Deuxième saison, visitez nos zones d'ombre. Le Dieu qui étanche ma soif me permet de renoncer au mal et me promet son pardon. Oh là là, alors là, moi j'imagine que certains d'entre vous vont dire, mais quelle douche froide il nous envoie là. Alors que dans sa première séquence, il nous parlait d'enthousiasme et de découverte, d'alliance, de bonheur et d'abondance. Qu'est-ce qu'il vient nous parler de péché, de pardon, etc., etc. Eh bien oui, et je crois que c'est l'un des éléments fondamentaux de notre cheminement chrétien, c'est qu'après nous avoir rencontré une rencontre qui étanche notre soif, Dieu nous fait découvrir les zones d'ombre qu'il y a en nous. Dieu nous fait découvrir les zones d'ombre qu'il y a en nous, parce que nous devons impérativement être réalistes. Tout n'est pas aussi lumineux, parfait et harmonieux que nous le désirons ou que nous l'imaginons. Et c'est vrai, tout aussi frustrant que soit cette découverte, c'est fondamental d'en prendre acte et d'intégrer cette dimension. Il existe, j'ai eu rencontré des personnes qui se sont dit, mais le fait d'avoir adhéré au Christ, le fait de s'être converti et d'être devenu un être qui a adhéré au Christ eh bien, l'a complètement libéré, a complètement annulé tout ce qui précédait dans son existence et a fait disparaître tout ce qui aurait pu être quelque chose de lourd dans sa personne. Eh bien non, je ne crois pas. Je ne crois pas et je crois au contraire que c'est encore une bonne nouvelle que de dire que la personne que Dieu a appelée et avec qui il veut faire alliance n'est pas une personne imaginaire censée être exempte de toute situation ou de toute difficulté. La personne avec laquelle Dieu veut faire alliance, c'est une personne réelle avec tout ce qu'il habite, avec tout ce qui la constitue de lumineux, mais aussi de lourd, de pesant, et de douloureux, et qui n'a pas des zones d'ombre dans sa vie. Nous avons tous hérité d'histoires de famille qui n'en sont pas toujours très heureuses. Nous avons tous vécu des expériences difficiles dans notre existence. Nous découvrons tous des passions, des traits de caractère qu'on essaie quand même plus ou moins de cacher, parce que ce n'est pas ceux qu'on va mettre en évidence et dont nous sommes très fiers. Nous avons aussi vécu des situations qui nous pèsent. Nous découvrons nos faiblesses, nos peurs, nos jalousies, ce qui a été douloureux à vivre dans notre environnement familial, des rejets, des déceptions, des trahisons, et j'en passe. Et cela, ça fait partie de notre vie. Et ce serait une illusion complète que de dire, oui, mais ça, non, on passe par-dessus, ça n'existe pas. Non, ce n'est pas du tout ce que l'Évangile nous invite à vivre. L'Évangile ne nous invite pas à annuler ces aspects de notre existence. L'Évangile nous invite à les intégrer, à les apprivoiser, afin de pouvoir les intégrer et les transfigurer. Vous voyez que c'est tout à fait différent. Annulez une zone d'ombre de votre vie, vous êtes sûr qu'elle reviendra au quadruple galop. Par contre, accueillez une zone d'ombre de votre vie, accueillez-la en l'apportant avec tout son poids et son côté lourd au Christ, eh bien vous allez pouvoir vivre une transfiguration qui ne va pas faire disparaître la zone d'ombre en question, mais qui va lui ôter tout son aspect corrosif et destructeur. Vous voyez la différence ? Vous voyez le côté absolument lumineux et fabuleux de l'œuvre et de l'alliance que Dieu veut construire avec nous. Alors cette deuxième saison, pour moi, elle se résume dans ce verset 7. Et comme je vous ai dit, c'est quand même étonnant, après l'énumération des 6 premiers versets qui nous ouvre dans un monde merveilleux, c'est étonnant que ce texte nous dise que le méchant abandonne sa voie et l'homme fasse malfaisant ses pensées, qu'il revienne au Seigneur qui aura compassion de lui, à notre Dieu qui pardonne abondamment. Parce que visiter nos zones d'ombre, ce n'est pas du tout nous apitoyer, ce n'est pas du tout nous y complaire. C'est au contraire savoir que sur ces zones d'ombre, Dieu va prononcer une extraordinaire parole de pardon. Et ça, c'est ça qui libère. Ce n'est pas l'annulation de mes souffrances qui m'en libère, c'est savoir que cette souffrance assumée peut recevoir un pardon. Et ça, c'est tellement important. Je me souviens que dans nos accompagnements de relations d'aide, il nous est arrivé de rencontrer des personnes qui, à 60 ans peut-être, faisait réapparaître une souffrance de jeunesse, souvent des abus ou des situations extrêmement mal vécues par des parents, et des souffrances qui avaient été enfouies pendant des années, niées, annulées, et malgré tout, elles ressortaient. Et lorsqu'on a pu avoir un climat de confiance assez profond, eh bien, cette souffrance est ressortie. Et puis nous avons pu, avec la parole, la personne en question, la porter au Christ dans un geste d'ouverture et d'accueil à la compassion et à la miséricorde du Seigneur. Et une fois que cette souffrance a été apportée, la personne a pu témoigner qu'elle en a été complètement libérée, dans le sens qu'elle n'a plus ressenti cet aspect corrosif de cette souffrance. Donc voilà. Accueillir nos zones d'ombre, accueillir ce qui est en nous comme quelque chose de pesant et de douloureux. Voilà, donc ça fait déjà deux saisons, deux étapes qui sont riches, un programme intéressant. Voyons la troisième. Et là aussi, pour la troisième, moi j'ai, j'ai résisté quand j'ai lu ce texte. Je me suis dit, non mais c'est pas vrai. J'ai quand même une démarche exemplaire, j'ai accueilli la parole de Dieu, j'ai écouté son message, je veux vivre son alliance. Ensuite, eh bien oui, j'ai abandonné mes propos malfaisants et que sais-je, pour obtenir la compassion de Dieu. Mais pourquoi est-ce que Dieu me dit, mais vos pensées ne sont pas mes pensées? Vraiment, on a l'impression que Dieu est un peu un rabat-joie dans ce passage-là. C'est un petit peu bizarre. C'est un petit peu bizarre d'entendre cela après ces deux premières magnifiques saisons. Je vous livre deux passages parallèles qui sont intéressants. Ecclésiaste 5, 2. « Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre, que tes paroles soient donc peu nombreuses. » Et puis, dans Sophonie, il y a une parole très très belle. « Le Seigneur, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour et il aura pour toi des transports d'allégresse. » C'est curieux, ce Dieu qui nous dit qu'il nous aime silencieusement, alors que pour nous, aimer, ça devrait se traduire par des effusions et des... une communication verbale explicite, et ce Dieu qui nous dit que, voilà, il lui arrive de se taire. Eh bien, cette troisième saison, en fait, nous apprend quelque chose de fondamental, c'est que Dieu est Dieu, fondamentalement Dieu, et que Dieu est au ciel et que nous, nous restons sur la terre, même dans la dynamique d'alliance que nous avons construite avec nous. Et à vrai dire, pourquoi c'est important de nous rappeler ça dans cette troisième saison? Parce que nous sommes tous tentés de mal comprendre cette vie avec Dieu, la nature de la présence de Dieu dans ce cheminement avec lui. Nous sommes tentés de mal le comprendre, en particulier en projetant sur lui quelques-uns de nos désirs et de nos fantasmes. Parce que vous savez, le fait d'avoir adhéré à la foi chrétienne n'a pas supprimé en nous nos désirs de toute puissance, nos désirs de nos représentations, parfois même de fausses représentations. Alors, il nous arrive, je donnerai quelques exemples, il nous arrive de projeter sur Dieu quelques-unes de nos rêves et de nos fantasmes. Et là, quand Dieu nous dit « mes pensées ne sont pas vos pensées », Dieu nous dit qu'il est toujours au-delà de ce que je connais de lui. C'est vrai, preuve en est, nous sommes là dans une église, et une église qui a bientôt un nombre respectable d'années, donc ça montre qu'il y a tout un enseignement, une structuration qui s'est donnée autour de nous. Nous en savons, nous en connaissons sur Dieu, nous en connaissons un wagon, comme on le dit simplement dans notre pays. Eh bien, moi je vous dis, chers amis, quelle que soit la grandeur du wagon et la longueur du train, le nombre de wagons dans le train, Dieu est toujours plus grand que les 265 wagons de notre train. Il faut toujours réaliser, qui que nous soyons, que notre compréhension restera toujours limitée. C'est ce que Paul dit aux Corinthiens, notre connaissance est limitée, notre prophétie est limitée, ou dans une autre traduction, nous ne connaissons qu'en partie. C'est capital de comprendre cela. C'est capital, non pas pour nous faire taire, non pas pour minimiser nos convictions. Certains disent, mais Dieu est tellement insaisissable qu'il ne faut rien dire sur lui. Non, ce n'est pas ma conviction. Il faut dire beaucoup de choses sur lui, il faut prêcher, témoigner, mais il faut savoir que je ne peux jamais avoir la parole dernière. Je n'ai jamais la parole finale qui va donner le dernier mot sur Dieu. Ce que je dis ne peut être que des énoncés qui sont mes convictions que j'ai construites personnellement ou communautairement. C'est pour ça que je crois à la vertu de la prédication communautaire et construite en communauté. Mais même si c'est construit communautairement, ce ne sera jamais le mot dernier, le mot ultime sur Dieu. Dieu est toujours plus grand que tout ce que nous pouvons dire et penser de lui. Et Dieu, finalement, n'est même pas tant l'objet de notre connaissance, j'aime bien rappeler ça. C'est pas parce que nous énonçons toute une série de vérités, de certitudes sur Dieu, de nouveau, que nous avons raison d'énoncer, parce que c'est ainsi que la foi se transmet. Mais n'empêche, Dieu n'est pas au bout de ses énoncés. Notre vrai rapport avec Dieu ne sera toujours qu'un rapport d'admiration, d'étonnement et de confiance. Et ça, vous le voyez tellement souvent dans les psaumes. C'est vrai qu'on peut dire tellement de choses sur Dieu. Et puis bon, dans notre situation, dans notre état de période de vie où on commence à prendre de l'âge, on peut se dire, voilà, on en sait des choses. Qu'est-ce qu'il va rester de tout ce que nous savons ? Eh bien, pour ma part, j'ai envie de dire la seule chose qui reste. J'espère que c'est un étonnement. Je reste étonné de ce projet magistral de la révélation que Dieu nous fait et à laquelle il m'a fait la grâce de pouvoir quelque peu atteindre, mais d'une manière tellement, tellement discrète et tellement éphémère. Alors, quelles conséquences pratiques de cette vérité ? Mes pensées ne sont pas mes pensées. Alors, première conséquence, par exemple, c'est de ne pas attribuer à Dieu nos désirs, nos rêves de toute puissance lorsque nous sommes dans l'épreuve. Alors, je le sais, il est dur de vivre des épreuves, il est dur de vivre une maladie, un divorce, des prières non exaucées. Et lorsque nous vivons des épreuves, spontanément, nous avons la tendance de rendre Dieu responsable. Peut-être je vous l'avais déjà dit, j'avais pris une fois une jeune fille en autostop, enfin elles étaient deux ou trois là, et puis je leur dis que je suis pasteur. Alors premier réflexe de ces demoiselles, « Ah, quand j'avais 12 ans, mon père est mort, donc j'ai compris que Dieu n'existait pas. » Oui, bon, elles voulaient se démarquer du pasteur que j'étais. Voilà, ce sont nos réflexes, et des réflexes universels, c'est pas simplement dans nos milieux. Lorsqu'on est déçu, notre composante narcissique, inévitablement va faire que nous allons attribuer à Dieu la responsabilité de notre déception. À 12 ans, j'ai vécu une expérience de ce genre où j'avais été déçu pour une broutille finalement. Et alors j'ai dit à Dieu, c'est bien maintenant, ok, entre toi et moi, terminé, on ne se cause plus. Manifestement, tu n'existes pas, tu n'as pas répondu à ma prière. Et puis c'est intéressant parce que Dieu s'est pris au jeu, il m'a dit, bon, c'est bien, il aurait pu me foudroyer à ce moment-là. Il s'est pris au jeu et j'ai tenu 3 jours. Puis au bout de 3 jours, j'ai dit non, l'enfoiré, c'est moi. Bien, mais que je vous le dise, 60 ans après, voilà, vous connaîtrez mon âge, que je vous le dise 60 ans après, c'est assez étonnant. Et non, c'est pas si étonnant que ça, c'est parce qu'en fait, ça a structuré ma foi. Et j'ai compris que je ne pouvais jamais impliquer Dieu dans une déception de ma vie. Et dans ma vie, il y en a eu des déceptions. Ceux qui me connaissent le savent bien, mais je ne pouvais pas impliquer Dieu comme responsable des déceptions de ma vie. Et vous savez, c'est tellement naturel que vous le trouvez dans la Bible. Qu'est-ce que Marthe a dit, est-ce que c'était Marthe ou Marie, je ne sais plus, j'ai oublié de noter, dans Jean 11, versets 21 et 32, qu'est-ce qu'elles ont dit à Jésus ? Jésus, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Ben voilà, c'est évident. Tu es tout puissant, si tu avais été là, il ne serait pas mort. Mais ça, c'est de la projection de la toute-puissance du désir. Et Jésus a dû corriger Marthe et Marie, qui dans cette magnifique phrase rapportée par la Bible, n'est pas du tout une phrase d'inspiration, comment je dirais, édifiante. C'est une phrase qui nous rappelle les dysfonctionnements des êtres humains, dont Marthe et Marie, qui n'avaient pas compris qu'il y avait un autre projet. Donc voilà, combien de fois est-ce que nous reportons sur Dieu nos déceptions et le rendons responsable des événements qui nous ont blessés. Dernièrement, je lisais avec Liliane le récit de la tempête de Paul en Méditerranée. Alors on lit ce récit de la tempête parce qu'on aime bien ce récit, parce qu'on sait qu'il se termine bien, c'est magnifique. Mais si on lit le récit en imaginant exactement les événements les uns après les autres, on aurait envie de se dire, non mais écoutez, il y a quelque chose qui ne joue pas là. Qu'est-ce qui fait que que Paul a dû subir ça, et où était Dieu là? Mais enfin, Dieu aurait quand même pu se manifester. Début de la tempête, Paul avait l'intuition qu'il ne fallait pas quitter Beauport. Beauport, j'ai eu l'occasion de le visiter. C'est dans une région intéressante du sud de la Crète. Eh bien, Paul avait l'intuition qu'il ne fallait pas quitter Beauport. Et il le dit, ne quittez pas, il va se passer un malheur. Et puis, voilà, l'officier préfère écouter le capitaine du bateau. Mon fin Seigneur, tu aurais quand même pu dire à l'officier et au capitaine que Paul avait raison. Dieu n'a rien dit. Et ensuite, la tempête éclate. La tempête éclate. Et la tempête éclate. Et elle éclate. Et elle éclate combien de temps? 14 jours. 14 jours de tempête. Moi, après 5-6 jours de grippe, je commence à en avoir marre. Bon, c'est la troisième fois cette saison, donc voilà, je m'habitue, mais quand même, on ne s'habitue jamais à ça. 14 jours de tempête. Jésus qui est capable d'arrêter la tempête au bout de 10 minutes. Qu'est-ce que tu fais pendant 14 jours? C'est quand même incroyable. Eh bien, voilà. Voilà la réalité que mes pensées ne sont pas vos pensées. Même si nous sommes en alliance étroite avec Dieu, rappelez-vous la première saison, Dieu sera toujours plus grand et cette alliance ne nous permettra en aucune circonstance de projeter sur Dieu ce que nous croyons juste. Là, je prends juste deux autres exemples pour me faire comprendre. C'est très important, mais là, j'enfonce des portes ouvertes bien connues. Mais quand je parle dans d'autres communautés autres que celles que vous êtes, parfois, je ne me fais pas toujours très bien comprendre. Bon, vous savez ce que c'est que la diversité du monde chrétien, la diversité des disciples de Jésus-Christ, qu'ils soient catholiques, protestants, orthodoxes, baptistes, pentecôtistes, évangéliques, etc. Mais mes pensées ne sont pas vos pensées. Ma manière de dire l'évangile, la manière dont nous disons l'évangile est certainement légitime, parce que c'est celle dans laquelle nous avons été construits, édifiés. Mais la manière du voisin n'est pas plus mauvaise, plus illégitime que la vôtre, et la manière du troisième n'est pas plus illégitime que la vôtre. Nous ne sommes pas les seuls à bien parler de Dieu, même ceux qui le disent très différemment que nous, à la mode orthodoxe ou à la mode catholique, sont aussi dans une manière légitime de parler de Dieu, parce que Dieu n'est pas limité dans sa révélation à notre expérience de vie. Et le troisième domaine que j'évoque, c'est celui des paroles prononcées avec autorité au nom du Seigneur, ou dit autrement, des charismes. Combien de fois il nous arrive d'entendre une parole au nom du Christ, un charisme, une prophétie, et moi je trouve magnifique, j'entends, c'est bon d'entendre une prophétie, c'est bon d'entendre un chant par l'Esprit, c'est bon d'entendre une confession forte, dites au nom du Seigneur, mais là encore, il nous faut garder un discernement éclairé. Là encore, Dieu est toujours plus grand que ce qui est dit en son nom. Et là encore, il peut arriver que des frères et sœurs, même de ceux que nous aimons, se trompent. Et vous n'ignorez pas qu'il était annoncé le retour de Jésus pour le 14 septembre 2016, je crois. Ou 2015, oh là là, comme je vieillis vite. Eh bien, j'ai été pris à partie à ce sujet-là. Et d'une manière un peu folle, j'ai été pris à partie dans la communauté où je me trouve par une dame qui croyait dur comme fer et qui me dit « tu dois prêcher là-dessus ». Et là, nous étions au mois d'août, au mois de juillet et août. Elle me dit « tu dois prêcher là-dessus ». Et avec délicatesse et finesse, j'ai essayé de le faire. Alors j'ai prêché en disant que oui, la perspective du retour de Jésus est une perspective magistrale, magnifique, à laquelle nous devons adhérer et nous pouvons appliquer notre cœur. Quant à traduire cette perspective par une date, il y en a un pas de trop. Je l'ai dit au mois d'août. Eh bien voilà, Dieu est toujours plus grand que tout ce que nous disons de lui et veillons. Et vous savez, ce genre de dérive, là, il s'en trouve toujours. Encore il y a deux jours, je lisais sous la plume d'un ami, pourtant, qui annonçait l'effondrement de l'islam dans les mois à venir. Bien. Voilà, passons à la quatrième saison. Oui, oui, mais ce n'est pas le respect que Dieu nous demande de développer vis-à-vis de ceux qui nous sont fondamentalement différents. Alors, la quatrième saison, vivre la fécondité de Dieu. C'est les derniers versets. J'espère que je vous que je n'abuse pas de votre patience, excusez-moi. Alors c'est merveilleux, du verset 10 au verset 13. « Comme la pluie et la neige descendent du cieux, des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes. Ainsi en est-il de la parole. Oui, vous sortirez de joie. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse. » Ce magistral. « Ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. » Alors, c'est ce que j'appelle la saison de la fécondité. Et c'est cela, chers amis. Une fois qu'on a traversé, alors, de nouveau, c'est pas linéaire, mais en même temps, il faut les avoir, enfin, il faut, c'est un privilège d'en avoir pris conscience. C'est pas un devoir, vous savez que je ne suis pas un pourvoyeur de devoirs. Mais c'est un privilège d'avoir pris conscience de ces saisons parce qu'elles nous habitent. Elles sont là au fond de nous-mêmes. Et lorsque nous avons visité ces saisons, alors dans l'ordre où vous voudrez bien, je suis convaincu que nous entrons dans un temps de fertilité. Un temps de fertilité parce que nous avons pris conscience de la vraie nature de Dieu qui nous permet d'être davantage conscients de notre fragilité. Nous sommes libérés de nos illusions que nous sommes des sauveurs de Dieu déterminés à sauver son honneur dans notre monde. Nous sommes libérés de nos illusions d'être des chrétiens parfaits sans pour autant céder à, je sais pas, à des choses pour lesquelles il nous est invité de visiter et de réorienter. Sans être écrasé par notre pauvreté spirituelle, bref, en sachant que Dieu travaille au travers et à l'intérieur de nos faiblesses et que nous lui faisons confiance, il conduira toutes choses à bonne fin. Alors nous découvrons cette tendresse d'un Père qui est dans la personne de Dieu, cette tendresse du Père qui veut nous rejoindre et nous transformer. C'est vrai que nous ne sommes pas toujours ce que nous aimerions être, et bien Dieu nous rejoint. Et nous permettra d'être plus féconds et plus de fécondité intérieure. J'ai lu tout dernièrement, comme quoi il faut toujours encore accroître, j'ai lu quelque chose, j'essaie de vous le restituer, qui me disait que finalement, ma manière d'être paisible ou d'être bien dans des situations extérieures correspond à ma manière d'être bien à l'intérieur de moi-même. Et pourquoi est-ce qu'il faut visiter cet intérieur, parce que c'est là que Dieu veut résider. C'est pas du tout à l'intérieur au sens du nouvel âge qui découvre au fond de nous des ressources particulières. Non, je suis pas du tout dans cet registre là. Je suis dans le registre que c'est Dieu qui veut visiter mon intérieur, et à partir de cet intérieur restauré, je peux être pacifié vis-à-vis d'un intérieur, d'un extérieur qui peut être chahuté. Et dans ce que je peux vivre, oui, dans ma présidence de la dynamique œcuménique du canton de Vaud, j'ai des choses un peu difficiles à vivre à l'heure actuelle. Eh bien, nous sommes pacifiés, être pacifiés à l'intérieur permet d'être pacifiés à l'extérieur. Donc, moins d'activisme, moins de productivité, plus de sérénité. Nous n'avons plus besoin de prouver à nous-mêmes ce que nous sommes et de le prouver aux autres. Il y a des combats qui deviennent inutiles sans pour autant devenir des lâches. Nous pouvons développer une immense confiance en Dieu sans pour autant basculer dans le fatalisme et la résignation. Nous ne sommes plus le produit de nos réussites et de nos échecs, et nous devenons moins sensibles aux pressions et aux attentes de soi et des autres. Oui, vous sortirez de joie et vous serez conduits en paix. Et cette saison, elle est marquée par la paix de Dieu. Je vous ai dit au début que la paix est l'une des choses à laquelle tout être humain aspire. Alors là, c'est complètement paradoxal, parce que tout être humain aspire à la paix. Tout président, quel qu'il soit, et Dieu sait que nous parlons beaucoup de présidents à l'heure actuelle, tout président aspire à la paix. Mais quelles que soient les décisions qu'il prend, ils vous diront « Mais mes décisions sont en faveur de la paix ». Le drame, c'est qu'ils sont prêts à faire la guerre pour leurs décisions parce que dans leur enfermement narcissique, ils sont convaincus que c'est leurs décisions qui sont les seules vraies et valables pour les autres. Alors que le vrai sens de l'amour, c'est ce que je disais encore dernièrement,
L'amour, c'est d'aimer l'autre dans sa liberté. Je peux aimer l'autre dans sa liberté et dans parfois ce qui me contrarie et dans ce qui est différent de ce que je comprends. Je l'aime l'autre tout en le respectant dans sa liberté. Oui, vous sortirez avec joie, vous serez conduits en paix. Je crois que c'est la plus belle parole que je puisse vous donner en conclusion de cette petite méditation. Amen.
Bien. Ah, je vais vous lire un tout petit texte. Pardon. Alors, le Verbe fait chair, devient nourriture pour nos cœurs et nos vies. C'est la présence de Jésus dans nos vies, Jésus qui est venu nous délivrer de la rivalité, de la compétition, pour que nous puissions devenir plus humains, plus compatissants, plus ouverts aux autres. Il nous a donné l'exemple pour que nous fassions comme il l'a fait. Je vais vous faire la lecture de Luc 22, 17. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper, la leur donna, en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. »
Seigneur, c'est un immense merci qui sort de notre cœur face à ce pain, à ce vin, parce que nous savons bien que ce pain nous renvoie à ta personne, et ce vin nous renvoie à ta personne. Et là encore, c'est ta personne tout entière qui se donne à nous ce matin. C'est toi qui as accepté la fragilité humaine, qui as accepté une incarnation absolue et totale, et qui a assumé cette incarnation jusqu'à ses conséquences les plus dramatiques, jusqu'à ta mise à mort. Aussi, nous te rendons grâce. Mais avant de mourir, tu nous as dit « Je vous enverrai en consolateur le Saint-Esprit ». Et c'est celui dont nous avons besoin ce matin. Pour comprendre cette sainte scène, pour la vivre, nous avons besoin de ton esprit. Pour comprendre ces quatre saisons de la vie avec Dieu, nous avons besoin de ton esprit. Et ton esprit se propose maintenant de venir le rappeler à chacune de nos oreilles, mais à chacun de nos cœurs, ce qui est encore bien plus important. Alors nous accueillons la présence de ton esprit qui nous construit comme disciples du Christ. Aussi, c'est avec confiance que nous prenons ce repas que tu nous offres. Amen.
J'inviterai alors quatre personnes à nous rejoindre pour la distribution de la scène, s'il vous plaît. Mais Seigneur, nous te remercions pour ta vie, nous te remercions pour ce pain et ce vin partagé. Merci parce que c'est ta vie, c'est ton sang, c'est tout ce que tu représentais. Merci parce que tu nous visites et merci aussi pour ce témoignage de ces Iraniennes qui étaient vraiment visitées de ton esprit, à qui tu parlais régulièrement et tu donnais des messages aussi pour les prisonnières, pour les geôlières, pour tous ces gens qui étaient contre toi. Et merci parce qu'aujourd'hui, tu visites aussi, tu nous visites, tu nous parles et de temps en temps, tu fais des interventions étonnantes. Oui, tu es tout, tu es autre, tu es là-haut, mais tu prends soin de nous. Nous voulons te louer pour ta présence. Amen. Voilà, nous allons passer à l'offrande. J'invite le groupe Longe à venir. Et si je peux avoir une petite aide pour la distribution, la circulation des paniers.
Seigneur Dieu, nous te prions de bénir pour l'honneur de ton nom et le service de ton Église, cette offrande qui est une part de ce que nous tenons de ta main et que nous déposons devant toi avec reconnaissance et avec joie. Nous te prions aussi de bénir et de conduire les personnes qui sont chargées de la distribuer. Amen. Maintenant, il y a Roger qui vient pour les annonces.
Voilà, je crois qu'il y a des annonces qui seront projetées. Je les ai listées, j'espère que c'est dans le bon ordre. Prière chez nous et pour les gens qui sont partis loin de chez nous, pour notre monde aussi en souffrance, ce mardi 31, 20h15. Samedi prochain, pour les jeunes adultes, nous avons le programme Free Time. Donc, prenez un flyer à la sortie si vous êtes dans ce cas de figure. Je rappelle que dimanche prochain, il ne faut pas venir ici. Journée inter-église, matin et après-midi, le programme complet est dans ce flyer. Il y a beaucoup d'exemplaires à leur sortie, donc prenez avec vous, comme ça vous avez tous les détails de la journée. L'année dernière, c'était vraiment une journée remarquable et je peux que recommander notre présence à la journée inter-église dimanche prochain. Pas de culte ici, dans nos locaux. Ensuite, nous allons profiter de la présence de Claude Bécher au milieu de nous pour entrer dans une saison d'études bibliques dont le premier s'agirait du travail. Le travail, malédiction, entre malédiction et bénédiction. Donc, ce serait par quinzaine et ça commence pas ce mardi, mais le mardi d'après. Là aussi, il y a des flyers à disposition. Comme ça, vous savez exactement quand c'est et vous pouvez même lire les textes d'avance pour entrer dans un temps qui sera interactif, un court exposé, temps d'échange en groupe, mise en commun à la fin. 19h30 et on termine 21h30 au plus tard. Et on commence en grignotant quelque chose ensemble d'abord. Voilà. Il y aura bientôt, tous les deux ans, il y a une rencontre entre les communautés chrétiennes de notre commune. Et le samedi 11 mars, il y aura déjà la 16e journée de ces rencontres spirituelles. Et ce serait pas à bosser cette fois, mais au centre John Knox. Et c'est Claude Bécher qui sera l'orateur, qui va parler sur le sermon sur le sermon sur la montagne. Donc, ce serait aussi l'occasion de l'écouter à ce sujet. Alors, il y aura aussi au mois de mars une série d'exposés et c'est pas tout de suite, donc c'est les mardis soirs courant mois de mars dans un souci de dialogue interreligieux. Et puis, dernière slide, le mémo est disponible, vous n'avez pas retenu toute cette information, toutes ces dates, c'est pour ça que le mémo existe. Mais c'est à vous de le consulter. Voilà, en le consultant, vous saurez tout. Et puis maintenant, nous sommes invités pour prolonger, si vous avez le temps, apéritif qui nous attend dans le foyer. Donc vous êtes tous invités à profitez d'un moment d'échange et de plaisir et merci à chacun pour vos vœux.
Voilà, pour respecter la tradition, une parole de bénédiction. Alors nous pouvons nous lever pour cette parole. Je vous dis que j'ai fait un petit résumé de la prédication. J'en ai une vingtaine d'exemplaires à disposition si cela vous intéresse. Alors, bien sûr, ma bénédiction, elle s'enracine dans ce que vous avez entendu et je vous invite à la mettre à la première personne du singulier vous concernant. Au lieu des buissons poussera le cyprès, ce sera pour le Seigneur un nom, un signe perpétuel. Dans mes buissons va pousser le cyprès du Seigneur, ce sera pour le Seigneur un signe, un nom perpétuel qui ne sera pas retranché. Que le Seigneur, sa grâce et sa paix vous accompagnent. Bon dimanche à chacun.